Tout d'abord, bonjour et bon dimanche à mes chers frères et sœurs ici, à l'église Saint-Maur. Et c'est avec encore une grande joie que je me trouve ici parmi vous. Et je viens de rentrer d'une semaine de conférence en Italie. Et il y a à peine 2 semaines lorsque Francis m'a envoyé un courriel en disant que, Joseph, est-ce que tu pourras venir nous donner une prédication le 14 septembre? Bon, je vous dis, c'est avec beaucoup de joie, c'est une occasion aussi que j'apprécie beaucoup de pouvoir ici partager la parole de Dieu avec vous. Et le thème ou le sujet de mon partage à ce moment-là, c'est une question. Pourquoi y a-t-il des souffrances? Et cette question, c'est pas moi qui ai posé, c'est des gens qui m'ont justement posé cette question. Et aussi dans ma lecture des livres sur la Bible, parce que mon travail c'est justement assister dans de différents pays, même dans des contrées lointaines, à des responsables d'église, des pasteurs, des personnes intellectuelles à traduire la Bible dans leur propre langue. Et au cours de mon travail, j'ai eu l'occasion de rencontrer des chrétiens, même de longue date, qui posent justement cette question. Et tout à l'heure, Clément a déjà lu ce texte tiré du livre de Job. Et le livre de Job, c'est un livre pas facile à lire et à comprendre. Mais c'est aussi un livre très intéressant. Et justement, je tire ce passage dans le chapitre 19, donc c'est déjà presque à mi-chemin, c'est-à-dire au milieu de ce livre de Job. C'est un passage célèbre. Je suis sûr, peut-être parmi vous, vous reconnaissez ce texte. Et le texte que Clément a mis à projeter sur l'écran, c'est la Nouvelle Bible Seconde. Hein. C'est peut-être légèrement, certains mots, peut-être un peu différents de l'ancien Seconde que vous, c'est-à-dire auquel vous êtes plutôt habitué. Mais le sens profond de ce texte s'y trouve. Et peut-être la NBS, la Nouvelle Bible Seconde, est encore plus proche de l'hébreu. Hein. C'est pourquoi, quand je prépare ma prédication, je consulte d'abord la Nouvelle Bible Seconde. D'ailleurs, la Bible bilingue française-chinoise, le texte français, c'est la NBS. Alors, c'est un passage très célèbre. D'ailleurs, si vous connaissez le célèbre compositeur musicien Handel, hein, George Frederick Handel, c'est lui qui a composé Messi, hein, Oratorio Messi. Et dans la troisième partie de Messi, justement, il y a un morceau, une aria, qu'on appelle aria, chantée par une voix de soprano, justement ce passage-là. Et en anglais, on dit « I know that my Redeemer liveth ». Donc ça veut dire que je connais que mon rédempteur est vivant. Et bien sûr, si vous rentrez à la maison, peut-être vous pourrez aller à YouTube pour vraiment écouter ce morceau de Handel. Hein, c'est très beau. Et la parole de cette aria tirée est basée sur Job, justement de ce passage-là. Et aussi, ce passage figure parmi les rares textes dans l'Ancien Testament qui font allusion justement à la résurrection. À la résurrection. À l'espoir dans un avenir où Dieu restaure l'ordre et la justice dans ce monde déchu. En effet, le terme « rédempteur » ici, si vous lisez dans certaines bibles d'études, il y a des notices, justement pour commander sur ce terme « rédempteur », c'est que le mot en hébreu peut aussi traduire par « vengeur » ou « justicier ». C'est celui qui rend justice, celui qui venge. Et justement, le terme est tiré du verbe qui signifie prendre en charge, racheter ou même carrément venger un homicide. Comme par exemple dans Nombre, chapitre 35, verset 19. Et aussi, c'est un passage c'est un de mes passages favoris bibliques. Et parfois, on lit ce passage quand il y a un service d'honorer un décès ou même des obsèques. Un passage qu'on entend, qu'on lit. Et c'est aussi un passage qui réconforte, qui rassure les gens qui passent par des moments difficiles dans la vie. Par exemple, le décès d'un proche ou être victime d'une injustice ou des souffrances inexplicables, un malheur ou carrément une malchance. D'ailleurs, c'est le thème justement de ma prédication ce matin, la problématique de l'existence des souffrances, et parfois inexplicables. Car si Dieu en qui nous croyons, ce Dieu en qui nous croyons est bon, est plein de miséricorde et de grâce, comment est-ce qu'il peut permettre, c'est-à-dire des souffrances dont non seulement nous souvent faisons l'expérience, mais nous constatons tous les jours. Hier, on vient d'apprendre qu'un quatrième otage a été décapité par les djihadistes en Irak ou en Syrie. Un journaliste d'ailleurs qui était kidnappé, qui était là justement, non même pas pour combattre les musulmans, mais simplement pour œuvrer pour des raisons humanitaires, des œuvres humanitaires. Et ce sont des événements qui nous choquent, qui nous rendent, en anglais il y a le mot sickening, qui vraiment nous rendent malades, c'est-à-dire tristes. Ces souffrances, cette problématique de l'existence des souffrances. Et justement, il y a deux ans ou trois ans, une membre de l'église, de notre église sœur dans le 13e passage national, m'a glissé un petit bout de papier, écrit, c'est-à-dire avec une question écrite sur ce papier. Elle m'a posé la question, si Dieu est bon, pourquoi il y a des souffrances? Pourquoi il y a des gens qui souffrent? Pourquoi il y a des problèmes, des malheurs et des souffrances? Je pense que ce problème, cette question intrigue beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens. Mais en fin de compte, la réponse n'est pas si difficile à trouver et aussi n'est pas si difficile à comprendre. Hélas, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à saisir la signification, la portée de cette question et à trouver une réponse satisfaisante. Et pourquoi ces chrétiens restent toujours dans le doute? Ils en doutent. Et le pire cas, c'est que même des chrétiens, soi-disant même des savants, des intellectuels, même des biblistes, des savants bibliques, soi-disant chrétiens, deviennent quoi? Pas jusqu'à athées, mais agnostiques. Hein. Vous avez le terme agnostique, ça veut dire je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre. J'essaie de croire, mais il y a des questions, il y a des doutes, et je ne sais rien, je ne peux rien faire. Et donc, il y a un problème, il y a un doute dans la foi de ces gens-là. Finalement, ils perdent en quelque sorte leur foi. Et même pour ces savants qui se disent maintenant agnostiques, ça veut dire que cette problématique devient pour eux une pierre d'achoppement. Je peux déjà tout de suite vous citer cet Américain du nom de Bart Ehrman. Il est très connu parce que il est vraiment le spécialiste du texte. Il est un spécialiste. C'est un jeune bibliste qui est vraiment spécialisé en grec du Nouveau Testament, qui a d'ailleurs écrit plusieurs livres, une dizaine de livres, qui sont très bien vendus. Je peux citer quelques livres, parce que ces livres sont surtout sur la critique textuelle des manuscrits du Nouveau Testament, par exemple, des dites comme « citer inexactement Jésus »,« misquoting Jesus », ou bien « Jesus interrupted »,« Jésus interrompu », ou bien « histoire perdue du christianisme ». Lui, c'est un spécialiste en ces matières, mais il est quand même très honnête, il reconnaît dans ses récents livres, ils se reconnaissent que maintenant je suis plutôt agnostique. J'ai commencé en tant que chrétien très engagé, évangélique. Après des études, je commence à douter un petit peu, mais je reste tout de même chrétien. Mais maintenant je suis agnostique. Et non pas parce qu'il y a des problèmes dans la fiabilité ou la transmission, la fiabilité douteuse du texte de la Bible, surtout pour le Nouveau Testament, pour son domaine de spécialité. Il reconnaît que pour moi, je n'arrive pas à saisir, à comprendre la réponse à cette question. Pourquoi Dieu permet-il qu'il y ait des souffrances, il y a des malheurs dans l'humanité? C'est dommage, c'est vraiment dommage. Il interroge, si Dieu est tout-puissant, pourquoi permet-il la souffrance, le malheur? Donc cette problématique de la souffrance est sérieuse. Elle peut avoir de graves conséquences sur la foi d'une personne. Je peux évoquer beaucoup d'exemples et des anecdotes. Vous savez, bien sûr, c'est malheureux, c'est-à-dire ces deux vols de Malaysian Airlines, hein, l'un après l'autre, le premier disparu, on n'a rien trouvé depuis, et l'autre qui a été comment? Avec plus de 200 personnes, surtout des Hollandais qui ont perdu leur vie pour rien. Et je suis sûr que pour leur famille, ils vont rester endeuillés peut-être durant le reste de leur vie. Et ce, sans réponse, c'est-à-dire sans explication. Et justement, il y a 2 mois, j'étais dans le Pacifique Sud, à Fidji, en Nouvelle-Calédonie, et j'ai rencontré une dame wallisienne, hein, une dame de l'île de Wallis, venant de l'île de Wallis, une dame polynésienne, wallisienne, d'un certain âge, je pense qu'elle doit avoir 70 ans ou 72 ans, hein, déjà une grande mère. Et tout de suite, première rencontre, elle était très honnête et très franche avec moi. Elle m'a dit, je n'arrive pas à comprendre parce que j'ai une grande souffrance dans ma vie. Et j'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit que j'ai perdu 2 enfants. Mon fils aîné et ma fille cadette. Alors après, j'ai parlé un petit peu avec elle. Elle m'a dit que même si ces décès de ces 2 enfants ont eu lieu il y a plus de 20 ans, mais elle n'arrive pas à s'en remettre. Et elle m'a dit, c'est Dieu qui m'a puni. Je n'arrive pas à accepter, je n'arrive pas à comprendre. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi Dieu m'a puni en laissant mes 2 enfants morts si jeunes? Le fils aîné, je pense qu'il devait avoir 24 ans. Alors, tous 2 morts dans des accidents de route, pas en même temps. Le fils d'abord et 6 ans après, la fille cadette. Mais à mon avis, je pense que j'en doute parce que peut-être le fils, il était en... Peut-être il a conduit en état d'ébriété, donc il était ivre, donc il y avait quand même une cause explicable. On peut expliquer pourquoi son fils est mort dans un accident, mais par contre sa fille morte à l'âge de 18 ans parce qu'elle était sur un pick-up là, et puis elle était avec d'autres copains et il y a eu un trou et elle est carrément tombée du véhicule et la tête cognée dans une fossée au bord de la route et elle est tuée sur le coup. Alors donc c'était très dur pour cette dame. Donc je suis allé chez elle, elle m'a montré des photos dans son salon, des photos de ses enfants, dont ses 2 décédés. Et j'ai même prié avec elle parce qu'elle m'a parlé que c'est Dieu qui l'a puni. Et que dirais-je? Je lui ai dit que non, il ne faut pas penser. Il ne faut pas prendre ça comme une punition de Dieu. Dieu est un Dieu qui nous aime. Dieu est plein de grâce et de miséricorde pour nous. Alors, je lui ai posé la question, vous avez lu le livre de Job? Elle me dit non. Donc je dis qu'il faut trouver une Bible et lire le livre de Job, même si ce livre n'est pas facile à comprendre. Et à un moment donné, elle m'a même parlé ça. J'étais plutôt un peu choqué. Est-ce que je pourrais consulter un médium pour parler, parce que je pense tellement à mes deux enfants que j'aimerais faire recours à un médium là pour parler, se décommunier avec l'esprit de mes deux enfants. Alors je lui ai dit, vous connaissez l'histoire du roi Saül qui est allé voir une dame médium à Endor pour connaître l'issue d'une bataille qu'il va livrer contre les Philistins. Elle m'a dit non. Donc j'ai prié avec elle, cette dame. Et donc il y a beaucoup de chrétiens qui ont besoin qu'on les assiste. Même nous-mêmes, parfois, nous devons faire face aussi à des problèmes, à des questions, et aussi cette problématique de la souffrance dans la vie. Et la dame m'a dit, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ces malheurs? Moi, j'étais toujours croyant, mais j'ai même aussi donné, c'est-à-dire des dons, des contributions à l'église pour contribuer à la construction d'une église, d'une chapelle. J'ai prié avec elle. Après, je lui ai posé la question. Alors, combien d'enfants il vous reste encore? 3. Et combien de petits-enfants vous avez? 11. Alors, je lui ai dit, il faut aussi encore savoir remercier Dieu parce que vous avez encore 3 enfants et 11 petits-enfants et vous êtes encore entouré. C'est vrai que son mari aussi vient de mourir il y a quelques années. Je pense peut-être parce que son mari était un ancien militaire, il devait avoir beaucoup fumé ou bu quand il était jeune. Donc il était mort aussi, pas trop, je ne pense pas âgé, hein, peut-être à l'âge de 68 ou 72 ans. Alors, je lui ai dit, il ne faut pas voir ça comme une punition de Dieu. Il faut voir ces malheurs, ces souffrances venant du malin, de Satan. Nous connaissons tous la prière dominicale, n'est-ce pas? Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Mais vous savez, en grec, le mot mal, finalement, est peut-être un peu ambigu maintenant. Les biblistes pensent que c'est plutôt du malin, de celui qui est malin, c'est-à-dire du diable. Mais délivre-nous de ce diable, de ce malin, et non pas du mal comme une conception abstraite. C'est pourquoi dans des nouvelles versions ou bien des anciennes versions révisées, on a révisé le mot mal en malin. Alors, j'ai dit à cette dame wallisienne, il faut comprendre que ces malheurs ne viennent pas de Dieu, elles viennent du malin, du diable, de Satan, mais simplement tolérées et permises par Dieu. Et donc il faut les comprendre comme une épreuve permise et tolérée par Dieu pour nous. Et donc je l'ai encouragé de trouver une Bible et de lire ce livre de Job. Nous connaissons très bien le livre de Job, surtout au début de l'histoire. Je n'ai pas besoin de passer de temps encore à lire ce livre, le début et la fin de ce livre avec vous. Mais le début de ce livre, justement nous dépeint une scène céleste, la cour céleste, où siègent Dieu et ses anges, les archanges, et aussi des êtres célestes. La Bible nous parle vaguement des puissances, des puissances des armées dans le ciel, mais aussi Satan est là, et avec ses acolytes, c'est-à-dire les anges déchus. Et nous connaissons bien sûr l'histoire, il y a eu un dialogue entre Dieu et Satan, et puis Satan dit que il met en question, c'est-à-dire la foi l'authenticité, de la fidélité, de la foi de Job. Il dit, oh, parce que tu l'as comblé de richesses et de bonheur, et c'est pourquoi il reste fidèle à toi. Mais s'il va souffrir un petit peu, tu vas voir. Et donc, les souffrances de Job, a priori, semblent inexplicables. L'une après l'autre s'abat sur lui. D'abord le vol de ses bétails par des brigands étrangers, et puis le massacre de ses serviteurs. Après, il y a un feu venant du ciel, détruisant ses troupeaux et bergers. Après, il y a une mort accidentelle de tous ses enfants. Après, la maladie, lui-même pour lui-même. Et puis, rejet par sa femme et raillerie de ses amis. Coup sur coup, plus dur l'un que l'autre. Le livre de Job est un livre très ancien et dont l'origine reste encore mystérieuse. Des spécialistes de la Bible hébraïque de l'Ancien Testament essayent de comprendre l'origine de ce livre. On sait que c'est un livre qui remonte dans un passé très lointain. On ne sait pas exactement où et quand il a été composé. Par contre, le langage, c'est-à-dire de hébreu, c'est un langage spécial, difficile. Certains passages aussi avec un sens incertain. Et aussi, c'est un texte difficile à traduire. Il y a beaucoup de mots rares et qui apparaissent seulement dans ce livre-là. Je me souviens quand j'ai participé ou dirigé la révision de notre Bible en chinois, l'ancienne traduction. Pour ce livre de Job, le comité de révision qui était à Taïwan, dont m'a attendu pour que je sois là avec eux pour vraiment revoir ce texte ensemble et prendre des décisions ensemble. Parce que justement, il y a des mots, des passages, des phrases qui sont ambiguës ou qui sont difficiles à traduire. Et Satan jette le discrédit sur la fidélité de Job. Il défie l'autorité de Dieu et il met en doute son amour et la véracité de la foi de l'homme. Donc Dieu finalement donne la permission à Satan de mettre Job à l'épreuve. Sauf que sa vie doit rester saine et sauve. Et l'histoire est claire. Donc, le malheur et la souffrance viennent du malin, de Satan et non pas de Dieu. Et personnellement, moi aussi, dans ma famille, j'avais un oncle, c'est-à-dire le frère aîné de mon père et ma tante. Et ils avaient eu de la peine d'avoir un fils. Hein. C'était dans leur quarantaine, quand ils avaient une quarantaine d'années, qu'ils ont réussi à avoir un fils. Et malheureusement, ce fils-là, quand il est déjà adulte, jeune adulte, à l'âge de 27 ans, à peine de terminer, obtenu son doctorat en médecine, est mort de la leucémie, cancer du sang. Et donc, ma tante se plaignait pendant quelques années auprès de mes parents. Elle dit, pourquoi Dieu m'a fait souffrir, m'a retiré notre enfant, notre fils bien-aimé. Nous n'avions que ce fils unique. Et ma mère, justement, ma mère m'a dit que, justement, ma mère lui a demandé de réfléchir, de voir le livre de Job. Et bien sûr, 3 ans après le décès de son fils, mon oncle est mort d'une crise cardiaque et ma tante, 2 ans après, d'une hémorragie cérébrale. Je ne sais pas s'il y a un lien entre la tristesse, le décès de leur fils et de leur mort, à mon avis, plutôt prématurée. Certes, il y a des drames, des malheurs, des souffrances dans notre vie. C'est un fait. Et c'est une réalité indéniable. Déjà, lorsque nous lisons les journaux ou allumer la télévision, et souvent même inexplicable. Et dans le livre de Job, notre héros a longuement débattu avec ses amis au sujet des souffrances dans la vie. Donc il y a des arguments qui vont de part et d'autre. Et la conclusion, vous pourrez déjà aussi lire à la fin, vers la fin de ce livre-là. Je vais vous lire. La conclusion, c'est quand même assez curieuse dans ce livre, difficile à comprendre, le livre de Job. Job, finalement, notre héros, reconnaît son ignorance. Même s'il n'arrive pas à trouver une réponse satisfaisante, l'essentiel, c'est que sa foi reste inébranlable. Je vous lis donc Job 42, versets 1 à 6. Je lis de la Nouvelle Bible Seconde. Alors, Job 42, versets 1 à 6. Job répondit au Seigneur. « Je sais que tu peux tout et qu'aucune pensée ne t'échappe. Qui est celui qui, sans connaissance, assombrit mes projets ? Ainsi j'ai parlé sans comprendre de choses étonnantes qui me dépassent et que je ne connais pas. » Verset 4. « Écoute, je te prie, moi je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je renonce, je me repens sur la poussière et la cendre. » Donc finalement, à la fin, Job n'a pas vraiment trouvé toutes les réponses de ses souffrances. Malgré les railleries, moqueries de ses amis, qui ont essayé de le convaincre du bien fondé de ses souffrances, sûrement tu as fait des mal, tu as commis plein de choses qui déplaisent à Dieu. Et Job essaie à chercher de se défendre, même si à la fin il n'arrive pas à trouver toutes les réponses, il n'arrive pas à tout comprendre, mais il reconnaît que Dieu est suprême, tout puissant. Et il n'a pas perdu sa foi. Sa foi reste inébranlable. Même il se repent de parce que il y a eu peut-être des pensées qui n'étaient pas qui ne déplaisent pas à Dieu. Donc à la fin, malgré les souffrances, le malheur, nous devons comme Job avoir une foi inébranlable. Même parfois dans notre vie, il y a des moments difficiles. Même parfois, nous, peut-être, faisons l'objet de cette victime d'une injustice. Mais nous devons toujours avoir l'espérance dans un avenir où Dieu prendra en charge et lui-même, il rendra justice. Et je vous invite à prier avec moi. Notre bon Père Céleste, nous te remercions car tu nous as appelés. Tu nous as choisis pour être des enfants. Tu nous as appelés à venir vers toi. Dieu, nous savons que dans la vie, très souvent, dans ce monde déchu, il y a des souffrances, il y a des malheurs, il y a des choses très négatives, inexplicables, que nous n'arrivons pas à comprendre. Mais Seigneur, garde-nous, aide-nous à ne pas perdre notre foi en toi. Parfois, nous avons fait ou même nous devons passer par des moments difficiles. Et Seigneur, aide-nous à surmonter ces épreuves, à nous élever au-dessus de ces difficultés, même si nous faisons faisons l'expérience. Mais nous avons toujours le regard vers toi, car tu es notre rédempteur. Et en tant quand le temps viendra, tu seras là pour restaurer l'ordre, pour rendre justice. Parfois, nous faisons peut-être l'objet ou de victime de l'injustice. Mais Seigneur, que nous ne perdions pas notre foi en toi. Nous pensons aussi à des frères et sœurs partout dans ce monde qui souffrent en ce moment, surtout des chrétiens dans ces pays, dans des contrées comme l'Irak et la Syrie, où leurs vies sont en danger, où ils sont obligés soit renoncer leur foi chrétienne, soit abandonner leur maison et fuir leur pays. Seigneur, nous pensons à eux, que tu les réconfortes, tu les fortifies et tu les encourages. Nous pensons aussi à nos membres d'église, nos frères et sœurs qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Là où ils sont, que tu restes avec eux. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.